Ça y est, l'écologie est enfin chaque jour à la une des médias. Aucune journée ne se passe sans son lot de rapports, de chiffres, de titres chocs, tous plus inquiétants les uns que les autres. De quoi se sentir aussi impuissant qu'un vermisseau face à l'immensité de la tâche à accomplir pour sauver notre belle planète. Mais puisqu'un seul ver de terre peut sauver tout un jardin, pourquoi nos simples gestes mis bout à bout ne pourraient-ils pas changer tout l'avenir de l'humanité ? Si le sentiment d'être impuissant nous noie dans le pessimisme, son meilleur remède pourrait bien être l'action. Une action engagée, aussi discrète qu'efficace, aux effets d'entraînement incommensurables. Et si on commençait aujourd'hui ? Je suis Cléa, autrice culinaire et exploratrice de solutions pour un avenir plus vert. Pour m'aider à cheminer, je suis partie à la rencontre des acteurs de l'écologie que sont les auteurs des éditions Terre Vivante. Ces femmes et ces hommes nous permettent de remplir une magnifique boîte à outils, 100% recyclée et recyclable, avec des gestes et des pratiques vertueux qui nous redonnent les pleins pouvoirs et l'optimisme qui va avec. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la saison 2 de Champ d'Action, je vais passer de l'autre côté du micro. Exceptionnellement, je cède la parole à Brigitte Michaud, éditrice aux éditions Terre Vivante, qui va me faire parler de mon livre « Je mange bio, même en rando, recette nomade pour balade, cyclo et bivouac », paru en 2020 aux éditions Terre Vivante, bien sûr. Bonjour Brigitte.
Bonjour Cléa. Ravie de passer de l'autre côté du micro pour te faire parler à mon tour.
Et oui, parce que je t'ai déjà interviewée dans un épisode précédent pour en apprendre un peu plus sur la confection écologique des livres et notamment la démarche de Terre Vivante.
Voilà, donc tu es bien placée maintenant pour savoir comment on fait. Alors moi, à mon tour, j'aimerais savoir pourquoi ce livre et puis un petit peu avant ce livre même, comment tu es arrivée à t'intéresser à la cuisine, à faire ton blog, avoir envie de faire des livres, etc.
Alors, j'ai grandi dans une famille où on aimait autant les livres que la bonne cuisine de saison. À l'époque, on parlait pas encore forcément de cuisine bio, parce qu'on est au début des années 80. On parlait surtout de cuisine voilà, de saison. Ma maman avait à cœur d'acheter des produits locaux, donc on achetait des légumes. On allait tous les mercredis dans un hangar, dans une ferme pour acheter plein de légumes. Donc après, il fallait les cuisiner dans l'ordre, les plus fragiles d'abord. Donc voilà, moi j'ai vraiment appris à cuisiner comme ça, au rythme des saisons, très, très connectée avec le local. Et comme j'ai grandi dans les Alpes, en Savoie, on était aussi très connectés à la montagne. Mon papa était alpiniste, c'était sa passion. Donc vraiment à la maison, on conjuguait le fait d'aller dehors, le fait d'aller en montagne, même si quand j'étais enfant et jeune, j'aimais pas trop ça, et le fait de cuisiner, de faire attention à ce qu'on mangeait. Et puis petit à petit, en grandissant, là c'est plutôt le bio qui a pris le dessus et le côté, l'aspect plutôt végétarien. Puisque voilà, j'ai grandi en Savoie, près d'Albertville. Et à la fin des années 90, un scandale lié à la dioxine a un peu explosé dans cet endroit-là. On a appelé cet endroit la Vallée Noire parce qu'il y avait une centrale de traitement des déchets qui s'était mise... Enfin, on s'est rendu compte qu'en fait, elle produisait de la dioxine en brûlant les déchets depuis pas mal d'années. Et qu'en fait, les terres étaient complètement souillées à la dioxine. Et donc, nous qui mangeons hyper local, avec les légumes produits sur place, le lait de la ferme, etc., on s'est rendu compte que... En fait, on avait mis notre santé en danger. Et donc, on s'est tourné, pour le coup, vers les produits certifiés bio, en allant faire nos courses quasi exclusivement, enfin, tout ce qui était financièrement possible, en tout cas, en allant au magasin bio. Et c'est un peu à cette période-là aussi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux problématiques écologiques et santé autour de l'alimentation. Et puis, plus j'allais au magasin bio, plus je découvrais aussi des nouveaux ingrédients. Et moi, c'est la cuisine qui me passionnait. En étant ado, 16-17 ans, j'avais envie d'expérimenter, de créer des choses. Donc, je me suis mise à tester plein de recettes, plein d'ingrédients, mais toujours en mode alternatif, avec ces nouveaux ingrédients comme l'agar-agar, les purées d'oléagineux, tout ça qu'on découvrait à l'époque, fin des années 90. Et bon, à l'époque, Internet n'était pas répandu comme maintenant, donc je me contentais d'écrire tout ça dans les petits carnets. Et puis, un peu plus tard, j'ai eu la chance de passer 2 années au Japon, donc sur la fin de mes études. Et là, pour le coup, j'étais partie avec mes 20 kilos de bagages réglementaires et sans mes petits carnets et sans mes livres de cuisine. Voilà, donc j'étais un peu perdue. Et là, j'ai découvert l'intérêt d'Internet qui en était à ses balbutiements question cuisine. Donc, on avait 2-3 sites de cuisine avec des forums comme Marmiton, Super Toinette, voilà, les dinosaures du genre. Et cette année-là, en 2004, en cherchant justement sur ces sites, j'ai découvert les tout premiers blogs. Et en l'occurrence, pour tout premier blog aussi de cuisine, beaucoup anglo-saxons, et puis 1 ou 2 blogs francophones. Il y avait notamment pas mal d'expatriés qui s'étaient dit que c'était une bonne solution de rester en contact avec leur famille et leurs amis, donc des gens voilà, en Allemagne, en Asie, ailleurs, qui se sont dit que ça pouvait être sympa de partager leurs découvertes culinaires dans leur pays d'accueil avec les personnes restées sur place en France. Et j'ai eu la même idée, donc je me suis dit, voilà... J'avais envie de découvrir ce que c'était que cet objet, le blog culinaire, parce que j'avais aussi une formation en sociologie de l'alimentation, donc j'avais un peu cette idée de voir comment ça fonctionne en tant qu'objet. Qu'est-ce que ça fait de transmettre une recette comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans les interactions avec les personnes qui lisent? Qu'est-ce que ça transforme chez la personne qui transmet la recette? Enfin voilà, il y avait tout plein de choses qui m'intéressaient dans l'objet. Et puis, sur le contenu, moi, je vivais au Japon, donc j'étais super heureuse de découvrir la cuisine japonaise, de végétarianiser ce qui pouvait l'être, de partager ses recettes, puisque ça paraît un peu fou, mais à l'époque, il n'y avait pas de recettes japonaises en français sur Internet. Si on voulait faire ses sushis, il fallait un peu se débrouiller tout seul, trouver des livres, etc. Donc, je m'étais dit, voilà, effectivement, ce contenu pourrait être utile à d'autres personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans la blogosphère au moment du tout début de la vague. Donc, c'était le tout début des blogs, en fait. Et ensuite, cette vague a enflé pour devenir un gros tsunami, en l'occurrence. Et comme je faisais partie des anciennes, voilà, j'étais un peu portée par cette vague. C'était une période assez galvanisante parce que, en fait, je faisais plein de découvertes, plein de rencontres. Alors, au début, elles étaient virtuelles. Et puis, quand je suis rentrée en France, on s'est rencontrés un peu entre blogueurs, blogueuses, parce que c'était quand même essentiellement des femmes pour ce qui est de parler cuisine. Et donc, ça a créé vraiment tout un... Voilà, il y avait tout un microcosme, tout un univers extrêmement sympa. Et moi, ça m'a ouvert sur plein de choses. Même si j'en ai pas fait mon activité professionnelle, ça m'a permis de publier 30 de livres de cuisine, tous ces livres de recettes bio et végétariennes. Et voilà, ça fait 16 ans, jour pour jour quasiment, que je tiens mon blog cléacuisine.fr. Et voilà, et donc ce projet d'écrire à la fois sur le fait de manger dehors et de cuisiner bio, c'est un peu un retour aux sources pour moi. C'est un peu un retour à mes origines familiales. J'habite maintenant un petit village de montagne sur les hauteurs de Grenoble. Donc en fait, je saisis chaque occasion d'aller dehors. Je suis en télétravail, comme beaucoup en ce moment, mais depuis une bonne dizaine d'années. Donc, je passe beaucoup de temps assise devant un écran. Je passe aussi pas mal de temps dans ma cuisine ou derrière mon appareil photo. Et donc, pour moi, c'est vraiment vital d'aller dehors, de prendre l'air, de changer ma vision. Au lieu de regarder tout près sur un écran, je vais regarder loin, vers les montagnes, vers les sommets. Et puis donc, d'avoir toutes ces couleurs, tous ces paysages, les bruits, les oiseaux, la forêt, les petits torrents. J'ai la chance, en fait, d'avoir plein de chemins facilement accessibles à pied depuis chez moi. Donc, je me promène, même si c'est juste une heure et demie. C'est l'important, c'est d'aller dehors, c'est d'être dans le mouvement. Et puis, mon loisir favori le week-end, quand j'ai plus de temps, c'est vraiment de partir toute la journée. Donc, que ce soit à vélo ou à pied, jamais bien loin de chez moi, parce que bon, j'habite une super région, donc c'est pas très compliqué de trouver de beaux endroits. Et donc, je mets toujours dans mon sac à dos de bonnes choses à manger. Déjà parce que c'est beaucoup plus agréable que d'emmener juste un sandwich pré-emballé. On se dit quand même que ça vaut le coup d'arriver au sommet pour déballer quelque chose vraiment de très bon. Aussi parce que je passe un excellent moment la veille ou le matin à préparer mon pique-nique en choisissant avec soin des ingrédients, des produits qui vont être locaux, qui vont être de saison. Je m'imagine déjà au moment où je vais déballer tout ça dans un... En général, je choisis un super spot, un sommet, un bel endroit avec la vue. Il y aura du soleil, je serai en bonne compagnie. Et là, je sais que je vais vraiment me régaler parce qu'en plus, quand on est dehors, tous nos sens sont en éveil, donc le goût aussi il se passe vraiment un truc au niveau du goût, c'est démultiplié. Donc, on prend un plaisir assez dingue à consommer ce qu'on a préparé. Et voilà, j'avais envie de partager ce plaisir-là, de donner envie aux gens d'aller dehors, d'aller manger dehors, de passer du temps dehors, et de leur proposer aussi, s'ils veulent dormir dehors. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de logistique à mettre en œuvre. Il faut parfois réchauffer, parfois assembler, cuisiner un petit peu dehors si on est en bivouac, prévoir des petits déjeuners, toutes ces choses-là un peu compactes et pratiques à mettre dans un sac à dos. Donc voilà, ce livre, c'est tout ça.
Alors effectivement, c'est ce qui frappe dans ce livre, c'est que tu tords un peu le cou aux idées reçues. C'est vrai qu'en général, on se dit, on part en rando, on va prendre... Alors je vais être horrible, mais je vais dire, on prend un paquet de chips ou un sandwich. Et puis c'est pas la première préoccupation souvent qu'on a quand on part en rando, de penser à ce qu'on va manger. Et pourtant, c'est le début du voyage, comme tu dis. Alors, comment tu fais en fait? Comment tu fais pour préparer ta rando, enfin ton repas en rando? Tu prépares à la maison avant? Tu privilégies le repas fait sur place? Tu as besoin de matériel particulier? C'est quand même une petite logistique un peu plus élaborée que ce qu'on imagine à mettre en œuvre.
Oui, en fait, c'est pas tellement chronophage ni compliqué. Par contre, ça demande un petit peu d'anticipation et d'organisation. Donc le temps qu'on consacre à la cuisine, il va falloir le faire la veille, l'anticiper un peu. On peut pas partir comme ça, on peut, mais l'expérience sera pas la même, partir au débeauté en emmenant juste un truc comme ça qu'on a pris vite fait dans sa cuisine. Après, cuisiner sur place ou pas, ça dépend de l'objectif. Moi, si je pars à la journée, en général, j'emmène un pique-nique qui est tout prêt dans mon sac à dos, éventuellement un petit réchaud si je veux faire une boisson chaude sur place, chauffer de l'eau ou quelque chose comme ça, ou simplement un thermos. Après, si je pars par exemple un week-end à vélo, comme je fais, j'adore une fois par an aller faire le tour du Trièves, où se trouvent notamment les éditions Terre Vivante, à vélo, parce que c'est un endroit magnifique. Et là, dans ce cas-là, dans des sacoches à vélo, on peut mettre pas mal de choses. Et là, je vais effectivement prévoir d'assembler sur place, de cuisiner sur place. Si je pars faire un bivouac en montagne, là, l'objectif, c'est plutôt que le sac à dos soit le plus léger possible. Donc en fait, je vais miser sur des préparations différentes en fonction de l'expérience que je veux éprouver. Soit j'ai envie d'aller très loin et que ce soit très léger, soit j'ai envie de passer beaucoup de temps à cuisiner, c'est un peu l'objectif, où je vais simplement aller dans un bel endroit et cuisiner dehors avec des amis, en famille, etc. Donc les préparations ne seront pas les mêmes. Dans mon livre, j'ai détaillé ça justement dans des chapitres différents, parce que c'est vrai que quand on part à vélo, dans les sacoches, on peut quasiment emmener une mini-cuisine. On peut emmener des choses plus lourdes dans des bocaux. On peut emmener des petites préparations comme des mini-bocaux d'huile d'olive, d'herbes de Provence, de sel, de toutes ces choses qu'on a dans sa cuisine et qui manquent si on veut cuisiner à l'extérieur, parce que les choses vont être fades. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à vélo, d'autant qu'on peut en général faire des arrêts pour acheter des choses complétées. Donc ça, c'est très intéressant d'acheter des produits locaux au fil du chemin, ce genre de choses, pour compléter ce qu'on a. Par contre, pour tout ce qui est sac à dos, montagne, tout ce qui se porte sur le dos, là, j'ai misé sur des préparations très compactes, comme des balles ou des barres. Donc là, c'est le Japon qui m'inspire un petit peu tout ça, parce que les Japonais sont très, très forts pour compacter les préparations. Ils ont notamment le bento, qui est la boîte repas qu'ils emportent tous les jours, qui peut contenir, par exemple, des boulettes de riz, enfin des choses. En général, on se dit, ah, le bento est tout petit, il ne doit rien avoir dedans. Et en fait, tout est tellement bien compacté que si on le déballe et qu'on remplit une assiette, l'assiette est vraiment pleine à déborder. C'est en général assez copieux. Et donc, je me suis inspirée de certaines de leurs idées, notamment en faisant des... si on a envie de faire une soupe sur place, par exemple, on peut très bien préparer des balles qui contiennent plusieurs ingrédients comme du miso, de la purée de sésame, des graines de sésame, des champignons séchés, tout ça qui va être mixé et façonné, modelé sous forme de balles, qu'ensuite il suffira d'écraser un petit peu avec de l'eau bouillante qu'on a fait chauffer sur le réchaud, de mélanger, et là, on laisse gonfler une minute, on a une très bonne soupe. Et de la même manière, des balles ou des barres, c'est un peu toujours la même idée, c'est de transformer son repas en version pocket, en version facile à modeler, à emballer, à transporter. On peut avoir des barres complètes pour le petit déjeuner, qu'elles soient salées ou sucrées. Par exemple, j'ai fait une barre qui a une saveur un peu banane, muesli, expresso pour le matin, pour quand on se réveille en bivouac. C'est toujours sympa, à défaut d'avoir un bon café frais et fumant et un bol de muesli avec une banane fraîche. Et ben on peut avoir tout ça compacté dans une barre et qu'on consomme comme ça avec un thermos bien chaud. En version salée aussi, parce que pour moi, l'important en balade, c'est quand même d'avoir des protéines, d'avoir des sucres lents et plutôt d'éviter les sucres rapides qui vont pallier, on va dire, à la fatigue de manière temporaire, mais qui peuvent causer des coups de fatigue ensuite. On a vraiment surtout besoin de faire le plein de protéines et de bons glucides et de bons gras le matin. Et j'aime beaucoup proposer des petits déjeuners salés. Donc, il y a un chapitre dédié aux petits déjeuners salés en bivouac, qu'on peut s'en inspirer pour la maison, bien sûr. Et par exemple, dans ce cadre-là, je propose une barre salée qui contient dans la pâte des graines de chanvre, de la farine de petite épeautre, qui sont riches en protéines. Et elle est fourrée aux olives et au miso. Donc là, on a des saveurs bien typées. Ça peut être pour le matin, mais ça peut être en guise de snack aussi. Voilà, il y a plusieurs types comme ça de préparations, donc les préparations compactées, et puis il y a des préparations que j'appelle des kits, qui sont plus des mélanges sous forme de poudre, donc des mélanges secs qu'on peut transporter dans des petits sachets hermétiques de récup, ou dans des petits bocaux si on préfère. Il y en a un que j'adore, c'est un mélange qui permet de préparer soit un chocolat chaud, soit une crème dessert au chocolat. Et ça, c'est super léger parce qu'en fait, on va simplement mélanger du cacao en poudre, du sucre complet, du beurre de cacao. Ça, c'est un ingrédient très intéressant, comme beaucoup d'ingrédients végétaux. En fait, si on commence à vouloir emmener du lait, du beurre, on voit très bien les ingrédients qui peuvent ne pas bien supporter de ne pas être au frigo. En montagne ou sur plusieurs jours à vélo, ça va tourner, ça va fondre, ça va pas bien se passer. Alors que dans l'univers des ingrédients végétaux, on a des alternatives comme le beurre de cacao, qui sont compacts, qui sont en palais, qui vont pas fondre comme ça, comme du beurre, et qui permettent, quand on les chauffe, d'avoir l'onctuosité, le côté gourmand du produit laitier, le côté gras du beurre. Et donc j'en mets dans ce mélange de poudre pour faire soit un chocolat chaud, soit une crème dessert, selon qu'on le boit chaud ou qu'on le laisse figer. Quand il fige, ça devient une préparation comme une crème dessert. Et ça, je trouve ça génial parce que quand on dort pas chez soi, a fortiori quand on dort dehors, des fois dans un endroit où on ne sait pas trop comment va se passer la nuit, il y a des bruits un peu bizarres, on est dans un environnement pas forcément familier, souvent, en fait, ce dont on a envie, c'est de saveurs d'enfance. Moi, j'ai beaucoup d'envie de retour en enfance. Et ça, je l'anticipe quand je pars comme ça. Je sais que je vais vraiment sélectionner des choses gourmandes qui, moi, me font du bien, autant à l'âme d'enfant à l'intérieur de moi qu'au corps, et qui sont plutôt des choses gourmandes. En plus, on s'est dépensé. Donc là, il n'y a vraiment pas... La tête a complètement décroché de l'idée « Ah, mais est-ce que je peux manger ça aujourd'hui ?» En fait, oui, tout est permis, à condition de respecter sa physiologie, quoi. Et ce genre de... Comme d'emmener un peu du granola pour agrémenter des préparations. J'aime vraiment bien me tourner vers le côté enfant à l'intérieur de moi.
En fait, on nourrit aussi bien l'esprit que le corps dans tes randos.
Ouais, en fait, l'idée, je pars vraiment toujours d'ingrédients locaux. Déjà, j'aime bien quand je vais pas très loin, mais quand je vais visiter, par exemple, le Trièves. Je regarde la carte et si je sais que j'ai des producteurs locaux ou un marché ou un magasin de producteurs sur place, je veux absolument vérifier les horaires pour être sûre de pouvoir m'y arrêter et pouvoir acheter des ingrédients locaux. Pour moi, c'est très important. J'ai l'impression d'encore plus me connecter au lieu que je visite en faisant ça. Et donc, si c'est simplement une rando pas très loin de chez moi, je vais passer au magasin de producteurs dans la semaine. Je vais me demander ce qui est super de saison. Si je peux faire une petite cueillette en route... je vais la prévoir aussi. Ça va donner peut-être un peu une thématique à mon pique-nique, à ma rando. Parce qu'en fait, on n'a pas que 4 saisons. On en a au moins 12 avec des périodes différentes qui se succèdent. Et par exemple, là, on est en avril. C'est l'explosion du printemps. Donc, on peut aller cueillir de l'ail des ours. On peut l'utiliser. On peut soit le rapporter à la maison, soit prévoir une petite fiole de vinaigre blanc et de l'eau avec une boîte pour bien le nettoyer sur place. Et puis, on peut l'ajouter dans la salade, dans le sandwich. Je trouve qu'en faisant ça, on a vraiment l'impression d'être connecté au lieu.
Et justement, alors, pour emmener tout ça, il y a des données qui sont intéressantes dans ton livre. C'est dans quoi on va récolter tout ce que tu récoltes, comment on transporte tout ça. Et je trouve que tu fais un focus très intéressant sur l'emballage, justement sur comment éviter le zéro déchet, comment plutôt pratiquer le zéro déchet, pas laisser de traces derrière soi, et puis même dans les emballages, donc comment recycler l'existant. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on part en randonnée.
Ouais, c'est vrai que le réflexe encore très courant chez la plupart des gens, c'est d'avoir à la maison un rouleau de papier film alimentaire, voire un rouleau de papier alu, et puis d'emballer les sandwichs du jour là-dedans. J'espère que les gens font attention de rien laisser derrière eux. Je pense que maintenant, c'est devenu un réflexe de redescendre ces déchets. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut changer. Moi, ça fait des années que je n'ai pas acheté de rouleau de papier film alimentaire. Papier alu, j'en parle même pas. Pour moi, ça a disparu il y a une vingtaine d'années. Par contre, je ne jette rien. Je conserve quasiment tous les emballages à la maison. Par exemple, les paquets de farine en papier Kraft. Je les garde, je les plie, je les garde. Ils peuvent me servir quand je fais du pain à la maison ou un gâteau. Je le coupe en tranches. Je mets ces tranches dans le paquet de farine et je mets ça au congélateur. C'est là-dedans que je vais aller piocher pour mes pique-niques ensuite. Et puis, si je prépare quelque chose spécifiquement pour le pique-nique, je vais réfléchir à comment l'emballer. Donc, quand on part à la journée, c'est assez facile. On peut emmener des boîtes hermétiques en inox, par exemple. On peut emmener des bocaux en verre parce que si on n'est pas trop nombreux ou si chacun porte sa part, c'est pas très lourd, c'est pas très compliqué. Puis c'est assez hygiénique. On peut ramener des couverts sales à l'intérieur. Ça a certains aspects assez pratiques. Mais sinon, je récupère aussi souvent ce qu'on appelle les sachets d'œil pack. Par exemple, quand on achète du granola ou des fruits secs dans des magasins bio, c'est ces petits sachets qui sont refermables avec une sorte de zip. En fait, on peut très bien les nettoyer et les réutiliser. Moi, je les réutilise, je sais pas, un nombre incalculable de fois, que ce soit pour congeler des choses ou pour emmener à la journée une part de tarte salée, une part de gâteau, un peu de granola. Voilà. En fait, c'est vraiment de la récup. Ça fait quelque chose de très, très moche parce qu'on a l'impression de trimballer un espèce de fatras avec différentes marques, différents emballages de différentes couleurs. C'est pas très joli. C'est vrai que on ne vend pas du rêve. C'est pas le pique-nique avec la nappe à carreaux et tout parfait. Mais c'est la vraie vie, en fait. Après, on rentre à la maison, on a ramené l'emballage, on verse un petit peu d'eau dedans, on nettoie vite fait l'intérieur, on fait bien sécher, et après, on le réutilise. On peut aussi faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus sympa, c'est des bisvrap maison. C'est assez populaire maintenant, on sait, ce sont des tissus enduits avec de la cire d'abeille, on peut en acheter, on peut les faire maison. Ensuite, on les lave simplement avec de l'eau et on les fait bien sécher, ça se réutilise aussi de nombreuses fois.
D'ailleurs, il y a le mode d'emploi, enfin pas le mode d'emploi, le mode de réalisation dans le livre,
tu expliques comment faire. On a mis un petit tutoriel à l'intérieur du livre. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'idées comme ça de récup, simplement d'utiliser un torchon, par exemple, pour emballer son pique-nique, comme le font les Japonais avec un tissu qu'ils appellent le furoshiki, donc qui sert à emballer la boîte, le bento, et qui sert aussi pour eux de set de table, pour remballer ensuite, une fois que les couverts sont sales, à la fin du repas. Un torchon, ça se lave à la maison, ça se réutilise un certain nombre de fois, et on peut effectivement emballer tout un tas de choses là-dedans. Après, j'ai aussi essayé de trouver des solutions pour éviter les emballages, comme le papier film alimentaire. Notamment, souvent, les gens mettent du film alimentaire autour des sandwichs parce que, évidemment, si on pose un sandwich comme ça dans un torchon, la garniture va partir en vrille, ça va couler, ça va pas bien se passer. Mais on peut imaginer de faire des petits pains avec la garniture qui soit fourrée, en fait, à l'intérieur. Et du coup, c'est la croûte du pain qui constitue l'emballage principal. Et là, il n'y a pas besoin de papier film, rien ne va glisser, rien ne va couler. On peut simplement, effectivement, mettre les petits pains dans un torchon, faire juste attention de ne pas les écraser.
En fait, tu fais cuire le pain avec la garniture
c'est
à l'intérieur,
c'est ça. En fait, je prépare une pâte à pain, je vais découper des petits cercles, je vais poser ma garniture. Alors, ça peut être, par exemple, du houmous, ça peut être un œuf dur, ça peut y avoir un petit peu de légumes cuits, enfin, du fromage, on peut imaginer tout un tas de choses. Et ensuite, je replie la pâte par-dessus la garniture, donc ça me fait un petit pain rond. Et puis, je les fais cuire. Alors, moi, j'aime bien les faire cuire à la vapeur, parce que je trouve qu'ils gardent plus de moelleux et ça fait un petit côté doudou assez sympa. On peut aussi les cuire au four, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est des préparations vraiment toutes simples, comme le cuir de fruits, par exemple. On se dit, c'est vrai, c'est bête, on ne peut pas manger les emballages. Ça serait quand même pratique de pouvoir manger son emballage au lieu d'avoir à le rapporter, à le nettoyer. En fait, il y en a qu'on peut manger comme ça. C'est, par exemple, le cuir de fruits, c'est simplement une purée de fruits qu'on étale sur une plaque et qu'on fait déshydrater au four. Alors moi, je n'ai pas de déshydrateur, je fais ça dans mon four, mais ça ne consomme rien, en fait. Il faut simplement ne pas avoir besoin de son four pendant 6 ou 8 heures à peu près. Et on laisse ça à 45, 50 degrés maximum. Et ça fait vraiment une sorte de cuir très souple. On peut l'utiliser pour emballer autre chose, pour emballer, pourquoi pas, un sandwich. On peut simplement le rouler, faire un petit rouleau et puis le découper comme une pâte de fruits. On peut le garnir sur place. faut pas trop le garnir avant parce que ça peut se détremper, mais on peut le garnir sur place avec, je sais pas, un peu de fromage frais, des petites cueillettes qu'on aurait fait en passant. Voilà, là, pour le coup, on n'a plus rien à ramener.
Ça doit être génial à faire avec des enfants aussi, tout ça, finalement. Ouais. Parce qu'ils doivent se régaler autant que toi à préparer la sortie. Bah, c'est une motivation, en fait.
C'est ça, c'est la motivation pour les enfants. Ouais. Si on leur dit, on va faire une randonnée de 3 heures et vous allez avoir très chaud et porter un gros sac à dos et ça va râler. On peut être sûr que ça va râler, que les enfants vont traîner la patte, ça va être compliqué. Si on leur dit, on emmène la tente, le sac de couchage et puis on va faire cuire un brownie à côté du feu de bois, je pense que c'est pas la même motivation. Et là, pour le coup, je donne des recettes pour ça aussi, justement pour les bivouacs un peu pas festifs, parce qu'on va pas monter à 15 avec des bouteilles d'alcool et faire la fête en montagne. Il y en a qui le font, mais c'est vraiment pas l'objectif. Moi, je suis pas trop pour ce genre de truc. L'idée, c'est plutôt de se retrouver ensemble et de partager un beau moment. Donc, c'est vrai que de faire cuire un gâteau tout simple, soit avec... parce qu'on a prévu un kit avec tous les ingrédients du brownie, c'est pas très compliqué. Quand on a anticipé, encore une fois, et qu'on s'est mâché le travail à la maison... généralement sur place, il n'y a plus qu'à mélanger et à cuire 2 minutes. Soit on peut très bien avoir, si on est parti plusieurs jours, il peut nous rester du pain pas bien frais, on peut se faire une sorte de pudding. Et voilà, tout de suite de fabriquer un dessert comme ça qu'on va manger chaud, tous ensemble, dans un bel endroit avec les étoiles, avec le feu, là où on a le droit d'en faire, ça aussi on le précise bien dans le livre. Ça transforme la rando pénible en expérience assez magique, ça peut faire des très beaux souvenirs pour les enfants aussi.
Du coup, la cuisine dehors, on ne sait pas forcément avec le réchaud. Tu donnes aussi des idées pour faire sur feu de bois.
Ouais, on peut faire sur feu de bois. Feu de bois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une majorité d'endroits où il est interdit de faire des feux de bois. Il ne faut pas non plus abîmer la nature où on se trouve. Donc, il faut bien se renseigner en amont. Il y a des endroits où on a tout à fait la possibilité de faire des feux de bois. Donc là, on se renseigne. Si on sait qu'on va pouvoir le faire, c'est génial parce qu'on peut cuisiner avec la flamme, avec les braises. On peut faire des bananes grillées avec des pépites de chocolat à l'intérieur qu'on étale sur des tranches de brioche avec un peu de beurre de cacahuète. Ça, c'est un super dessert de bivouac, un super petit déjeuner aussi. Mais sinon, quand même, la plupart du temps, le mieux, c'est le plus simple, c'est le réchaud. Là, avec le réchaud, en général, il suffit de savoir qu'on aura une source d'eau, par exemple. Et à la maison, on peut avoir emmené tout un tas de kits à base de poudre, à base de balles qu'on va ensuite diluer. On peut compléter avec des cueillettes. On peut vraiment cuisiner juste avec un réchaud et de l'eau, si on a bien anticipé. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles.
En fait, même si on veut prolonger l'histoire, finalement, c'est presque comment cuisiner quand on n'est pas chez soi, ton livre.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas que la rando, finalement.
Il n'y a pas que la rando. Moi, de par mon travail, je me retrouve assez régulièrement à être en déplacement, à être dans des endroits qui sont beaucoup moins sympas que la montagne ou les randos à vélo. Et je peux me retrouver simplement dans un hôtel où je sais que je n'ai pas envie d'aller manger au restaurant, par exemple. Et donc, là, je vais anticiper avec un peu le même genre de préparation. Je sais que je vais emmener ce que j'appelle les petits cadeaux bonus, en fait. Pour si jamais je me suis juste acheté une soupe au magasin bio, j'ai mon petit réchaud pour la réchauffer. J'ai du bon granola salé à mettre par-dessus. J'ai emmené des crackers que j'ai fait à la maison, qui sont pleins de graines. Et puis, j'ai prévu un petit dessert, par exemple, que j'ai cuit directement dans un bocal. J'en présente plusieurs comme ça qu'on cuit directement dans des petits bocaux, soit à la vapeur, soit au four. Et voilà, ça change quand même l'expérience de la soupe en bocal qu'on a achetée et de la chambre d'hôtel pas marrante pour les déplacements professionnels. En fait, c'est vraiment l'idée de comment cuisiner quand on n'est pas chez soi. Et encore une fois, la seule clé, c'est l'anticipation, de s'organiser un peu. Au bout d'un moment, moi, j'ai pris ce réflexe-là. Je ne l'ai pas fait pour le livre. Ça fait des années que je fais ça, que je me déplace beaucoup, que je vais beaucoup en randonnée. Et donc, c'est vraiment un réflexe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement une production de granola à la maison. On glisse ça dans un petit bocal pour l'emmener. Si je fais un kit pour du chocolat chaud, j'en fais 6. Ça va se conserver des mois. Et puis, je vais juste en attraper un pour partir. Voilà, on peut toujours avoir tout ça aussi sous la main.
Tu as ton placard de base, en fait, et tu pioches dedans.
Oui, c'est ça. Il faut juste se familiariser avec certains ingrédients que je présente au début du livre, qui sont encore une fois les alternatives un peu végétales qui se conservent mieux, qui se conservent dans un placard plutôt que dans un frigo. Et ça, c'est vraiment des choses qui dépannent beaucoup. Emmener un petit bocal de purée d'amande blanche, par exemple, le matin pour se faire des tartines ou pour diluer dans de l'eau pour se faire du lait, en fait, pour se faire une boisson chaude ou froide. Ouais, c'est quelque chose qui dépanne et considérablement, qu'on soit en rando ou juste qu'on parte pour le travail ou autre chose.
Alors, tu as cité la purée d'amande, tu as cité les palets de cacao, il y a le miso aussi, il y en a d'autres encore
C'est déjà les principaux. Après, c'est vrai qu'on a quand même besoin de faire attention aux protéines si on fait beaucoup de sport, si on part notamment sur plusieurs jours. Et c'est vrai que quand on pense protéines, on pense viande, poisson, les œufs. Alors les œufs, on peut les emmener dans leur boîte en mettant un élastique autour, ça peut se faire. Par contre, c'est vrai que la viande, le poisson, je propose des recettes végétariennes. Et puis en plus, ça ne se conserve pas bien en dehors du frigo, mis à part la charcuterie. Donc là, l'intérêt, c'est de bien connaître les protéines végétales. Et c'est vrai qu'il y a plein de manières de transporter des protéines végétales. On pense aux protéines de chanvre. C'est simplement des graines décortiquées qu'on peut ensuite parsemer sur le plat de pâtes du soir, qu'on peut transformer en sauce, encore une fois, pour les pâtes aussi. J'en propose là aussi une recette. Mais on peut imaginer des choses autour du pois chiche, sous la forme de falafel. En fait, tout ce qui est balle, tout ce qui est bar, tout ce qui est compact. Même s'agissant du houmous, par exemple, c'est des choses qui vont beaucoup mieux résister en dehors d'un frigo, surtout quand les nuits sont fraîches, plutôt que tout ce qui est ingrédient non végétal, en fait.
Dans ce livre, alors, on parle beaucoup de nourriture, mais il y a aussi de très belles photos. Des photos de rando, des photos de paysages, des photos de plats, évidemment. Tu avais une comparse pour faire ce livre, en la personne de Linda Louis. Donc, vous avez fait comment ? Vous êtes parties randonner toutes les deux ?
Oui, ouais. On a fait tout ça. En fait, effectivement, Linda Louis, c'est une amie. C'est une super photographe, naturaliste. Enfin, elle connaît très bien les plantes sauvages, la nature. Et elle fait de magnifiques photos. Donc, j'avais la chance de pouvoir allier à la fois le travail et l'amitié dans ce projet-là. Donc Linda est venue à la maison, on a randonné pour de vrai, on a emmené alors tout le matériel photo et tout le matériel cuisine en montagne, avec le réchaud, avec tout. On a fait plusieurs recettes sur place pour les prendre en photo. On est allé aussi dans le Trièves, donc on est allé faire un petit coucou à Terre Vivante, et puis on est allé sur les lieux dont je parle quand moi je fais mon tour à vélo. On est retourné sur place, on a visité les producteurs locaux, on a sélectionné les produits, on a fait des photos sur place aussi. Enfin, voilà. Et puis Linda, de son côté, a aussi emmené pas mal de recettes en randonnée, mais aussi, elle vit plutôt du côté de Bourges, donc elle a profité de balades sur le bord des canaux, en canoë, en forêt, pour emmener plusieurs recettes du livre et les shooter vraiment en scène. En fait, on a vraiment... Moi, déjà, j'ai évidemment multiples fois testé les recettes avant de les proposer pour le livre. Et puis, on les a encore réalisées ensemble pour de vrai. Ce sont les vraies recettes. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas d'améliorant. On a vraiment cuit les ingrédients comme il faut. On les a mangés. Enfin, voilà, ça a vraiment été testé. L'expérience a été validée in situ, en pleine nature, quoi.
En fait, c'est un livre qui donne envie d'aller se promener, mais pour bien manger, presque, finalement. Ça
oui,
retourne
ça
un peu
un
le...
prétexte. Ça peut être un très bon prétexte. Mon objectif, c'était de donner envie aux gens d'aller dehors, d'aller dans la nature, parce que plus on va au contact de la nature, plus on s'y sent bien et plus on a envie de la protéger. Pour moi, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est l'écologie, c'est la protection de la nature. Donc, c'est parce qu'on avance avec une carotte au départ qui est waouh, un pique-nique génial avec des ingrédients locaux, et ben tant mieux. Voilà.
C'est vrai que moi, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire un gâteau au chocolat sur un réchaud en pleine montagne ou encore effectivement la crème dessert toujours au chocolat ou la panna cotta aux fruits. Enfin, ça paraît tellement improbable que. Et pourtant, si. Enfin, voilà, tu expliques comment le faire. C'est.
Oui, et puis maintenant, je trouve que ce serait triste de faire autrement, finalement.
Ouais.
C'est vrai que quand je vois les gens qui montent et qui déballent leur paquet de chips et de biscuits, je me dis, dommage, ils sont sûrement passés à côté de quelque chose.
Quelle tristesse, ouais.
C'est dommage. Bon, après, ils sont déjà arrivés tout en haut, c'est déjà pas mal.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton dernier pique-nique, tiens, par exemple ? Ta dernière randonnée et ton dernier pique-nique ?
Mon dernier pique-nique, alors, je pense que Je me souviens que j'avais préparé un cake salé avec des fans de radis, parce qu'on était, on est en plein dans la saison des petites fans toutes fraîches. Et puis c'est vrai que quand on rentre du magasin et qu'on a ses légumes tout frais, bah, il faut s'en occuper rapidement. Des fans, donc en général, j'aime bien faire des pestos ou faire un cake salé quand j'en ai vraiment beaucoup, notamment des fans de carottes qu'il vaut mieux faire cuire. Et donc j'avais fait un cake salé qui est dans le livre d'ailleurs, avec des fans de carottes, de la feta, des noisettes. Je l'avais coupé en tranches, j'en avais surgelé une partie, puis j'en avais emmené l'autre partie avec une salade toute verte avec, j'avais mis du quinoa, de la roquette, de l'avocat, du tofu lacto-fermenté. J'aime bien aussi le tofu lacto-fermenté, enfin tous ces ingrédients fermentés qui aussi aident nos intestins, parce qu'en balade, ils sont parfois un peu malmenés quand c'est sur plusieurs jours. Et donc voilà, salade toute verte avec un cake tout vert. Et puis du chocolat en dessert et une petite goutte de chartreuse parce que c'est mon petit plaisir local. On a toujours la petite gourde de chartreuse pour le dessert à la fin. Voilà, ça c'est uniquement en rando.
Bah, franchement, ça donne envie vraiment de courir, se promener. Je crois que oui, tu fais vraiment le tour de tout hein, dans ce livre. Les goûters, les petits déjeuners, le festin sous les étoiles, les repas en kit, le vélo. Ouais, il n'y a plus qu'à partir là.
Voilà, donc je vous invite tous à aller manger dehors.
Ben merci Cléa.
Merci beaucoup Brigitte. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique qui se lit autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. À bientôt !